Vous écoutez, on lit pour vous.
Walter Zelaya, le directeur de Memo QC, a vécu 12 années de lutte difficile. Un texte de Aline Van Compernol, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Walter Zelaya, à la tête de Memo QC depuis plus de 20 ans, a été le seul à avoir été témoin du dossier depuis son commencement jusqu'à l'annonce finale de la victoire en mars 2024. Le directeur de l'organisme garde une bonne mémoire de ce dossier qui l'a beaucoup marqué et beaucoup touché, pour lequel il s'est longuement investi, a engagé les membres ainsi que l'équipe de Memo QC au fil des années. Walter a d'abord été marqué par le témoignage des premiers membres de Memo QC venus frapper à sa porte pour lui exposer le sujet. Il se souvient particulièrement de l'histoire de Luc Rouleau, qui lui a raconté les difficultés qu'il vivait et notamment le fait qu'il allait perdre son condo à la mise en place de la pénalité à 65 ans, car il ne pourrait plus payer ses mensualités hypothécaires. Quand je pensais à ce monsieur qui allait perdre son logement à une période de sa vie où il était déjà très vulnérable et qui se demandait ce qu'il allait faire, les larmes ont coulé. C'est vraiment venu me chercher. Ça a été comme un déclic. Je suis encore émue quand j'y pense. À partir de ce moment-là, j'ai pensé et je lui ai dit « On va se battre », raconte Walter, comme si c'était hier, à la recherche d'informations et de soutien. Dans ce dossier complexe et difficile à comprendre, le directeur de Memo QC se souvient qu'au début, nous ne savions même pas à qui nous adresser au gouvernement pour obtenir de l'information. Il se souvient aussi de l'hostilité du ministère des Finances au moment où l'organisme demandait l'accès à certaines informations. En 2013, Memo QC est à la recherche de soutien. Le jeu de ping-pong entre le protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est vécu comme une mauvaise surprise. En gros, ils se sont renvoyés la balle, commente Walter. Le manque de réponse médiatique décourage aussi le comité. Plus le temps passe, plus nous sommes convaincus de notre point, mais nous nous sentons très seuls. Je salue d'ailleurs la persévérance des membres du comité, reprend Walter. La réponse du protecteur du citoyen après la seconde relance abat encore davantage les membres investis. Nous étions choqués. C'est dur quand on lance une bataille et qu'on vit des défaites comme ça, se désole Walter Zelaya. Finalement, c'est l'avis favorable de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui relance l'affaire et le moral. Cet avis nous a donné beaucoup d'espoir. Nous espérions que l'information serait reprise par les médias et qu'il y aurait pu y avoir une pression médiatique après ça. Mais non, la nouvelle est seulement reprise par des médias locaux, s'attriste le directeur de Memo QC. L'intérêt médiatique, le reportage de la facture. Finalement, quand le sujet est repris par la facture de Radio-Canada, Walter est très content du retentissement médiatique du reportage. C'est une émission de grande écoute, une émission respectée, juge-t-il, même si le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Le retentissement de l'émission va au-delà des attentes et le directeur de Memo QC se souvient que l'organisme a fait son possible pour répondre à toutes les demandes d'information. Nous avons fait notre maximum, mais il était difficile de répondre à tout le monde. Il n'y avait qu'une seule personne en défense des droits à l'époque. C'est en partie la raison pour laquelle il y en a trois maintenant. Du côté de l'Assemblée nationale, quelques appuis politiques se manifestent. Walter cite, ému, le plaidoyer touchant du député du Parti québécois, Guy Leclerc, pour abolir la pénalité. Son fils, Benjamin Leclerc, un sportif reconnu, était devenu quadriplégique. Se souvient-il? Les démarches judiciaires. Quand Mémo QC porte le dossier en justice, les espoirs sont minces. Les avocats que nous avons consultés en 2013 nous disaient que si nous allions au TAC, nous allions perdre, car il fallait remettre en question la constitutionnalité de la loi. Nous avons hésité. Finalement, d'autres personnes, comme M. McLean, ont déposé un dossier avec un autre avocat, Maître Mongeon. Nous travaillons avec Maître Laporte, qui a fait un excellent travail, explique Walter Zelaya. Enfin, la victoire. Jusque dans les derniers mois, avant l'annonce effective du retrait de la pénalité, il était difficile de croire à la victoire, notamment après la rencontre avec le ministre des Finances du gouvernement de la CAQ, Éric Girard, le 11 septembre 2023, où aucun engagement n'avait été annoncé. Je suis content des connaissances fines, techniques et juridiques que Mémo QC a apportées au dossier, mais à la fin de la rencontre, quand je demande au ministre s'il va faire quelque chose, il répond qu'il s'est engagé à écouter. C'est tout, résume Walter. Finalement, à l'annonce du retrait officiel de la pénalité, après toutes ces années de lutte acharnée, Walter Zelaya ne peut que s'estimer heureux et très ému de cette victoire. Il s'est rappelé de toutes les nuits blanches passées à travailler sur le dossier, notamment avec les membres du comité aujourd'hui disparus. C'est la mesure dont le ministre est le plus fier dans ce budget. Si le ministre est sincèrement fier, c'est grâce à toutes les personnes de Mémo QC, les membres du conseil d'administration, les employés et aussi plusieurs dizaines de milliers de personnes pour qui il s'agit d'un gain tangible, reprend le directeur de Moelle Épinière et Motricité Québec. Et de conclure, on nous traitait de fous au début, nous n'étions finalement pas si fous que ça. Quand on a la conviction qu'on a raison, la persévérance est le meilleur allié. C'était Walter Zelaya, le directeur de Mémo QC, a vécu 12 années de lutte difficile, un texte de Aline Van Compernol, paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.
Visage autochtone, dignité humaine. Un texte de Cristiano Pereira, paru en 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. L'omission des noms des Autochtones sur les photos du passé ou le reflet d'une époque dont la mentalité est aujourd'hui désuète. Tenter de résoudre ce problème est un effort vers la réconciliation. Alors qu'elle vivait à Whitehorse, Helen Bond, adjointe de projet et de la Direction générale de la diffusion et engagement de la Bibliothèque et Archives Canada, se souvient d'une discussion avec un aîné qui lui a évoqué une réflexion. Des milliers de photos d'archives manquent encore d'identifier les Autochtones qui y figurent. En collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada, le projet « Un visage, un nom » s'est donné pour objectif d'identifier ces personnes oubliées de l'histoire. Pendant de nombreuses années, au 19e et 20e siècle, les employés du gouvernement qui vivaient dans ce qui est maintenant le Nunavut ont photographié et documenté la population locale dans leurs activités quotidiennes. Ces photographies, qui se comptent par milliers, sont conservées dans les archives, mais elles présentent une lacune grave. La grande majorité des Inuits photographiés n'ont jamais été identifiés. À ce jour, Bibliothèque et Archives Canada, BAC, conserve des milliers de photos des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits qui n'ont jamais été identifiés. Il y a 20 ans, un programme a été lancé pour tenter de résoudre ce problème. Le projet « Un visage, un nom » vise à identifier des photographies grâce à la participation communautaire. Il s'agit d'un projet visant à donner une certaine dignité aux photos de la collection de la Bibliothèque et Archives Canada, explique Helen Bond. La responsable a précisé que l'absence de noms sur les photographies ne concernait que des personnes autochtones. Lorsqu'il y avait une personne blanche sur la photo, son nom était donné. Ces noms figurent toujours dans les archives, mais nous avons des milliers de photos sans nom, dit-elle. Aujourd'hui, le projet continue à inviter les Canadiens à essayer d'identifier toutes les personnes qui restent anonymes sur des milliers de photos. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser l'engagement communautaire, surtout dans le Grand Nord, poursuit Helen Bond. Elle explique que c'est par le biais des réseaux sociaux qu'ils tentent d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Le projet « Un visage, un nom » opère notamment à travers ses pages Facebook et X, anciennement Twitter. Parfois, la publication reçoit un certain nombre de réactions et des informations précieuses lui parviennent. Dans 30 % des cas environ, nous obtenons des informations sur les photos et qui peuvent être un nom. Mais il peut aussi s'agir de plusieurs noms, d'un lieu, du type de vêtements qu'ils portent ou de différents outils qu'ils utilisent dans l'image, raconte la responsable du projet. Il reste encore un long chemin à parcourir avant d'identifier beaucoup de visages et ainsi nettoyer des restes d'une mentalité colonialiste des archives. Cela prend beaucoup de temps, car des milliers de photos ont été données aux archives, mais les photographes n'ont pas pris le temps de recueillir les noms des gens, note la responsable. C'était « Visage autochtone, dignité humaine », un texte de Cristiano Pereira, paru en 2023 dans l'Aquilon des Territoires du Nord-Ouest.
Accessibilité des ressources d'aide en sécurité alimentaire, un moyen de réduire les inégalités sociales. Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru dans le numéro 159, hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Pour nous parler de l'enjeu de la sécurité alimentaire chez les personnes en situation de handicap, nous avons rencontré Marie-Hélène Tanguay, coordonnatrice de développement de projets chez Defies sans limite. Ses expériences tant personnelles que professionnelles soulignent de belles initiatives en matière de sécurité alimentaire dans la région montréalaise, mais aussi certaines préoccupations sur ce qui reste encore à faire. Marie-Hélène, pourriez-vous vous présenter et nous dire ce qui vous a amené à vous intéresser aux enjeux de sécurité alimentaire? Je suis coordonnatrice de développement de projets chez Defies sans limite et, de manière plus générale, je travaille dans le milieu communautaire depuis 2009. Je vis avec une paralysie cérébrale de naissance et je m'intéresse depuis que je suis toute jeune aux enjeux de sécurité alimentaire. Mon grand-père faisait des jardins et mon père était jusqu'à tout récemment agriculteur biologique. C'est donc une préoccupation de famille. Je constate que de plus en plus de personnes s'intéressent aussi à ces enjeux. On entend parler d'autosuffisance, de la nécessité de se renseigner sur la provenance des aliments, etc. Quelles sont vos expériences professionnelles et personnelles avec les ressources d'aide en sécurité alimentaire? De janvier à juin 2022, j'ai participé à un comité consultatif de l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap pour un projet sur la sécurité alimentaire et les personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité. Le but de ce projet, qui s'appelle « Les sentinelles du garde-manger », était d'aller sur le terrain à travers la région de Montréal, d'identifier les lieux de dépannage sécurité alimentaire accessible et d'ensuite créer une plateforme numérique qui répertorierait les ressources existantes pour les personnes en situation de handicap. Ce projet a été mis sur pied par l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap et a nécessité la collaboration de différents partenaires, dont des Filles sans limites. Sur le terrain, on a notamment eu le plaisir de travailler en collaboration avec Centre Paul Roulant, qui est un centre alimentaire communautaire. Cet organisme accessible offre une pluralité d'activités et de services, notamment une popote roulante, un jardin sur le toit et j'en passe. Cette collaboration nous a permis d'aller faire du bénévolat là-bas. C'est intéressant de savoir que des personnes en situation de handicap peuvent aller faire du bénévolat dans ce type de ressources. Après la portion terrain, l'équipe du comité consultatif a travaillé à identifier et cartographier les ressources disponibles et accessibles en sécurité alimentaire sur le territoire montréalais. On a malheureusement constaté que ce ne sont pas tous les organismes en sécurité alimentaire qui sont en mesure d'accueillir et de servir des personnes en situation de handicap. Tous n'offrent pas non plus le service de livraison. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un en situation de handicap qui s'apprête à consulter, fréquenter, faire appel à une nouvelle ressource en sécurité alimentaire serait de l'appeler avant de se déplacer afin de s'assurer de l'accessibilité réelle des lieux en fonction de ses besoins et capacités spécifiques. D'un point de vue davantage personnel, je suis une adepte régulière des cuisines collectives de l'organisme Bouffe Action de Rosemont, et ce, depuis maintenant 8 ans, à raison d'une fois par mois. C'est un très bel organisme qui œuvre en sécurité alimentaire et propose une offre d'activités très variées. En plus des cuisines collectives, il y a des jardins collectifs, des ateliers d'alimentation pour les futures mamans, etc. Ils ont des intervenants sur place. Ils ont aussi des groupes de cuisine collective adaptés qui s'adressent spécifiquement aux personnes à mobilité réduite qui sont atteintes d'une maladie dégénérative ou qui vivent avec une déficience intellectuelle légère. C'est chaque fois un lieu d'échange et de partage enrichissant, en plus de nous permettre de découvrir de nouvelles techniques et recettes. Depuis la pandémie, Bouffe Action a aussi mis sur pied le pôle logistique alimentaire en nutrition, PLAN, qui offre notamment un service de livraison d'aliments qui sinon auraient été jetés par des épiceries et autres commerces d'alimentation avant leur date de péremption. Il s'agit d'une initiative exemplaire qui permet d'économiser et de réduire grandement le gaspillage alimentaire. Si, au lieu de les jeter, toutes les épiceries donnaient leurs invendus à des organismes de sécurité alimentaire, je suis convaincu qu'il y aurait bien moins de personnes en situation précaire ou vulnérable qui souffriraient de la faim. Dans le contexte actuel, que trouvez-vous inacceptable en 2023 en matière de sécurité alimentaire? À cause de l'inflation telle qu'on la connaît actuellement, plusieurs personnes n'ont pas accès à des aliments ou à des mets préparés sains et c'est inacceptable. Bien se nourrir est un besoin primaire, de base. Plein d'obstacles peuvent limiter ou complexifier l'accès à une alimentation saine pour les personnes en situation de handicap et l'inflation rajoute un obstacle supplémentaire à tout ça en renforçant les inégalités sociales chez les personnes vivant avec un revenu moindre. Si tu manges sainement, tu es en meilleure santé, tu récupères mieux, tu as davantage d'énergie, tu peux mieux t'impliquer socialement en tant que citoyen, travailler, défendre tes droits. Je trouve aussi inacceptable que l'offre de services à domicile soit à ce point inégale à travers le territoire montréalais, d'un CLSC à un autre, par exemple. Ainsi, plusieurs personnes qui auraient besoin de services en matière d'aide alimentaire, comme la préparation et la distribution de repas, n'y ont pas nécessairement accès. On constate aussi, depuis plusieurs années, une diminution de l'offre du service de préparation et de distribution de repas. Les personnes en situation de handicap, notamment, doivent donc se tourner vers d'autres ressources. Ressources qui, selon les endroits, sont parfois très limitées, voire inexistantes. En ce qui a trait à la sécurité alimentaire, quelle demande au gouvernement feriez-vous pour 2023? Je suis convaincu qu'il est impératif d'augmenter les revenus et développer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap afin de leur permettre d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Il faudrait aussi davantage de ressources accessibles en matière d'aide alimentaire, que ce soit sur l'île de Montréal ou ailleurs. Pour 2023, je formule aussi le souhait que davantage de personnes en situation de handicap s'impliquent bénévolement. Pour obtenir davantage d'informations sur les organismes montréalais qui accueillent adéquatement les personnes en situation de handicap dans le secteur de la sécurité alimentaire, je conseillerais aux personnes intéressées de contacter directement l'Institut national pour l'équité, l'égalité et l'inclusion pour les personnes en situation de handicap qui pourra les orienter. C'était « Accessibilité des ressources d'aide en sécurité alimentaire, un moyen de réduire les inégalités sociales », un texte d'Annabelle Grenon-Fortin paru dans le numéro 159 « Hiver-printemps 2023 » du magazine Paraquad.
Arbres à migrer. Un texte de Marianne Dubé, paru le 2 octobre 2025 dans Le Devoir. Une menace contre la forêt prend racine malgré nos efforts. Le réchauffement climatique. Pour la préparer aux bouleversements que cela entraîne, comme les feux et les envahisseurs, des chercheurs québécois testent des solutions. À 2 heures au nord de Québec, dans la réserve faunique de Portneuf, près du lac des Amanites, des arbres locaux partagent la forêt avec des cousins d'ordinaire plus frileux. Les épinettes blanches, qui ont leurs habitudes dans la région, côtoient désormais les carriers ovales, que l'on retrouve en temps normal plus au sud, le long du fleuve Saint-Laurent, et des cerisiers tardifs, présents dans les Maritimes. Ces nouveaux venus ne sont pas arrivés ici tout seuls. Ils ont été plantés par des chercheurs qui tentent de voir à quoi ressemblera la forêt du futur. Avec les changements climatiques, les arbres seront forcés de migrer plus au nord, où le climat leur est plus favorable. Le hic, le climat change à une telle vitesse qu'ils sont incapables de suivre. C'est pourquoi l'ingénieure forestière, Patricia Raymond, et son équipe du ministère québécois des forêts, de la faune et des parcs ont aussi choisi des essences du Sud pour cette opération de reboisement de 10 000 arbres. En devançant de 2 ou 3 décennies leur migration naturelle, elles espèrent que la forêt s'adaptera plus vite. Cette pratique nommée « migration assistée » n'est qu'une des nombreuses façons de préparer la forêt à la menace qui prend racine malgré nos efforts, le réchauffement climatique. Des chercheurs québécois testent des solutions pour contrer les dangers qui viennent avec un climat changeant, tels des feux de forêt plus intenses et la prolifération d'envahisseurs comme la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ces bouleversements risquent d'affecter la biodiversité de la faune et de la flore, et de perturber le rôle de puits de carbone de la forêt, qui aide à la lutte au changement climatique. Sans oublier les conséquences sur le secteur forestier, qui représenta en 2023 11 % de toutes les activités manufacturières du Québec et 1,7 % du PIB de la province. Les arbres de 2050. C'est pour conserver les services rendus par la forêt que des chercheurs se sont lancés dans la composition d'écosystèmes prêts au changement, avec des arbres adaptés aux conditions climatiques du futur. L'augmentation des températures anticipées, sans nécessairement une augmentation des précipitations, va causer des stress chez les arbres, note Patricia Raymond. C'est pourquoi elle a décidé de donner un coup de pouce aux arbres avec le projet de migration assistée, DREAM, Desired Regeneration Through Assisted Migration, dont elle est l'instigatrice au Québec et la chercheuse principale. Elle et son équipe sont parties à la recherche d'analogues climatiques, soit des endroits au sud où le climat ressemble à celui des prévisions de 2050 et de 2100 de la région de plantation. 9 essences d'arbres ont été plantées en 2018 dans la réserve faunique de Portneuf. Les semences du climat actuel proviennent de la région de Québec. Celles qui sont comparables aux conditions prévues en 2050 viennent de l'Estrie et celles pour le climat de 2100 du Wisconsin et des Maritimes. Sur une échelle de milliers d'années, les arbres arriveraient à rattraper leurs zones climatiques modifiées par les changements climatiques. Mais les études scientifiques montrent que la vitesse de migration naturelle des espèces d'arbres est vraiment plus lente que la migration des conditions favorables. Donc, si on laissait aller, si on n'intervenait pas, les espèces n'arriveraient pas à suivre, explique Mme Raymond. 5 ans après, 84 % des plants mis en terre ont survécu. Et la survie est similaire d'une provenance à l'autre. Cela semble tenir la route, donc ça pourrait être une approche à développer. Favoriser la migration ou pas? Pour Alain Paquette, professeur à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine, la migration assistée n'est pas nécessairement une bonne idée. Pour lui, il s'agit d'un aveu d'échec. C'est comme si on disait « on n'arrivera pas à contrer les changements climatiques ». Il évoque les risques liés à la migration assistée. Si les températures sont en hausse, cela n'exclut pas qu'il y a encore des températures nettement sous le point de congélation. Et avec des espèces du sud, ça peut poser un risque puisqu'on les plante dans un climat qui n'est pas encore propice pour elles. M. Paquette croit que les efforts devraient être mis dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements. La meilleure façon d'aider la forêt à s'adapter, c'est de lui offrir la plus grande diversité possible d'options. C'est en assurant une régénération naturelle, avec tout le potentiel de diversité génétique qui vient avec et que la plantation n'offre pas. Il mise plutôt sur la conservation des forêts. En enlevant toute activité de l'industrie forestière des vieilles forêts vierges, on conserverait sa diversité et sa résilience. Quant à l'industrie, M. Paquette croit à la culture intensive, près des usines, sur un petit territoire. Par la plantation, moi je pense qu'on est mieux d'intervenir le moins possible. Mais j'ai des collègues qui pensent l'inverse. C'était « Aider les arbres à migrer ». Un texte de Marianne Dubé, paru le 2 octobre 2025 dans Le Devoir.